Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Démonstration de force au sommet de l'OTAN. L'Alliance Atlantique va s'élargir à la Suède et à la Finlande. La Turquie vient de retirer son veto. Un signal fort en direction de Moscou. On sera en direct du sommet dans un instant. Yaël Braun-Pivet, première femme présidente de l'Assemblée nationale. Elle était la candidate du camp présidentiel. On va revivre cette première journée de la nouvelle Assemblée. Elisabeth Borne vous demande de remettre le masque dans les lieux clos, à commencer par les transports publics. Pour l'instant, c'est une recommandation, mais les chiffres du Covid explosent. Nous allons le voir. Vous en avez assez de toujours courir après des timbres-poste? Eh bien, vous devriez adorer le timbre numérique. Il arrive l'année prochaine. Explication dans ce journal. Le temps demain, ce sera du soleil à l'est et l'arrivée d'une perturbation à l'ouest. Notre invité à 22h20, Noémie Marciano de Witiwi, anciennement Grâce à Voix. On parlera avec elle absentéisme au travail avec les derniers chiffres disponibles. Et puis, on jettera un coup d'œil au gros titre de la presse avant la libre antenne.
Europe 1.
C'est donc un signal fort pour l'Ukraine et contre la guerre de Vladimir Poutine. L'OTAN va se renforcer, elle va s'élargir, c'est l'annonce majeure. Ce soir, au sommet de l'OTAN à Madrid, la Suède et la Finlande vont rejoindre l'Alliance Atlantique. La Turquie s'y opposait jusqu'ici, mais le président turc lève son veto. Écoutez Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN.
Nous venons de terminer une réunion très constructive avec le président Erdogan, le président Niinistö et la première ministre Andersson. Et je suis heureux d'annoncer que nous avons maintenant un accord qui ouvre la voie à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. La Turquie, la Finlande et la Suède ont signé un mémorandum qui répond aux préoccupations de la Turquie, notamment en ce qui concerne les exportations d'armes et la lutte contre le terrorisme.
William Molinier, vous êtes en direct du sommet de l'OTAN pour Europe 1 à Madrid. L'OTAN qui va donc s'élargir à deux pays qui étaient jusqu'ici historiquement neutres. Démonstration d'unité des alliés. William, c'est un signal très fort envoyé à Moscou.
Oui, parce qu'il y a eu tout au long de la journée des négociations intenses entre Suédois, Norvégiens et Turcs. Cet après-midi encore, plusieurs diplomates doutaient d'un possible accord, si bien que des entretiens bilatéraux avaient été programmés dès demain matin entre le président turc Emmanuel Macron et Joe Biden pour faire avancer ce dossier. Mais c'est donc en début de soirée que l'accord a été trouvé ici à Madrid. Stockholm s'est engagé à coopérer avec Ankara sur le dossier sensible des militants kurdes du PKK qui se trouvent aujourd'hui en Suède et qui sont considérés par les Turcs comme des terroristes. En clair, ces ressortissants pourront être extradés vers la Turquie et en échange, les Turcs ne s'opposeront donc pas à une entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN. Selon Washington, le président Erdogan n'a pas demandé de concession aux Américains en échange de la levée du droit de veto. Précision importante, car ces derniers jours, les Turcs étaient accusés à demi-mot de faire chanter les Américains pour obtenir des contrats d'armement. L'OTAN va proposer officiellement demain à la Suède et à la Norvège de la rejoindre. Chaque pays membre devra ensuite ratifier cet accord, ce qui ne devrait a priori pas poser de problème car jusqu'à présent, seule la Turquie avait manifesté des réserves.
William Molinier, en direct du sommet de l'OTAN à Madrid pour Europe 1. Cette guerre en Ukraine, fait savoir le porte-parole de Vladimir Poutine, eh bien elle peut s'arrêter en une journée, si et seulement si l'Ukraine dépose les armes et si elle accepte les conditions du Kremlin. Il n'est donc plus question de négociation, réagit Emmanuel Macron, mais de reddition. La guerre ne va pas s'arrêter dans les mois qui viennent, prédit le chef de l'État. Le Conseil de sécurité de l'ONU est réuni en urgence ce soir à New York à la demande de l'Ukraine après la frappe russe contre un centre commercial de Kremenchuk. Le président Zelensky a fait observer tout à l'heure une minute de silence debout pour les victimes. Des victimes civiles, 18 morts, 36 disparus, 59 blessés. Ce n'est pas une surprise, mais c'est une première. Yaël Braun-Pivet devient la présidente de l'Assemblée nationale. Elle était la candidate du camp présidentiel et pour la première fois, Victor Chabert, c'est donc une femme qui accède au perchoir.
Oui, un jour historique, disait-on, salle des quatre colonnes, l'éphémère ministre des Outre-mer et députée des Yvelines, Yaël Braun-Pivet, a été élue au second tour présidente de l'Assemblée nationale. Elle est la première femme à occuper ce poste et à la tribune, elle ne cachait pas son émotion.
Personne n'est entré dans cet hémicycle sans émotion, sans ressentir l'histoire dont ces murs sont empreints, l'histoire de la République.
Yaël Braun-Pivet, marcheuse de la première heure, s'est révélée au grand public alors qu'elle présidait la commission des lois de l'Assemblée nationale durant ces 5 dernières années. Reconnue comme une parlementaire technique, elle va devoir gérer un hémicycle divisé. Mais la nouvelle présidente dit avoir saisi l'enjeu.
Bien sûr, j'en ai conscience. J'accède à cette fonction dans un moment particulier de notre vie politique. La configuration de notre Assemblée est inédite. Les Français nous enjoignent de travailler ensemble, de débattre plutôt que de nous battre. Ils nous ont choisis, ils nous ont élus et nous partageons, quelles que soient nos différences, une responsabilité, celle de répondre à l'espoir que cette Assemblée, qui a le visage de la France, a fait naître chez nos concitoyens.
Voilà, on vient donc d'entendre les premiers mots de la présidente de l'Assemblée nationale. Victor, première journée marquée aussi par une polémique. Le député RN José González, qui est donc élu à l'Assemblée, c'est à ce titre, en tant que doyen, qu'il a prononcé un discours inaugural. Et dans son allocution, Victor, l'élu d'extrême droite a choisi d'évoquer ses origines pieds-noirs et l'Algérie française.
Des propos qui ont fait bondir la NUPES. L'écologiste Aurélien Taché dénonce une nostalgie de la France coloniale de la part des députés Rassemblement National. Des propos qui mettent fin à la dédiabolisation de Marine Le Pen pour Sandrine Rousseau. Autre polémique de l'après-midi, l'un des benjamins de l'Assemblée, le député insoumis Louis Boyard, secrétaire de séance comme le veut le règlement, n'a pas souhaité serrer la main à des députés RN lorsqu'il montait au perchoir pour voter. Entre les deux formations politiques, la bataille commence et s'annonce rude.
Victor Chabert, après cette première journée pour la nouvelle Assemblée nouvellement élue. Merci Victor. Yaël Braun-Pivet, première femme présidente de l'Assemblée. Elle appartient donc au camp présidentiel, mais l'exécutif n'a toujours pas de majorité absolue pour gouverner. Elisabeth Borne va donc suivre cette recommandation. Elle continue ses consultations aujourd'hui avec les groupes LR, écologistes, communistes et socialistes. Le Covid explose, près de 150 000 nouveaux cas en moins de 24 heures. C'est 54% de plus que la semaine dernière. Elisabeth Borne, après sa ministre de la Santé hier, recommande donc le port du masque dans tous les lieux clos et les lieux de promiscuité, à commencer par les transports publics. Ce n'est donc pas une obligation à ce stade, mais une simple recommandation. Les Français sont-ils prêts à suivre cette recommandation? Louise Douillet a posé la question dans les rues de Paris.
1000 masques pour la première fois ce matin, en me laissant influencer parce que j'avais entendu les commentaires de la ministre disant que c'était pas encore obligatoire mais que c'était demandé. Donc,
écoutez, je ne le porte pas actuellement. J'ai eu le Covid il y a un mois et demi, donc bon, selon les experts, on serait assez tranquille quelques mois après. Il y a aussi des questions de confort, pour être honnête, quand on est entassé dans le bus et qu'il fait chaud, c'est pas très agréable.
Non, je le porte pas parce que j'ai déjà fait le Corona et j'ai 3 doses, donc parfois je le mets. Quand il y a trop de monde, par prévention.
Je considère qu'on doit, pour les autres et pour soi-même, porter un masque. Je trouve que c'est quand même une question de civisme.
Voilà pour ces Parisiens interrogés dans les rues de Paris par Louise Douillet. Le premier test législatif pour l'Assemblée sera très observé. Il va concerner le pouvoir d'achat. Ce sera cette loi pouvoir d'achat qui sera présentée en Conseil des ministres au sein du nouveau gouvernement le 6 juillet prochain. Un premier signal pouvoir d'achat vient d'être envoyé en direction des fonctionnaires avec le dégel du point d'indice. Dès le 1er juillet, ce sera donc après-demain vendredi, ils seront augmentés, les fonctionnaires, de 3,5%. En pourcentage, c'est la plus forte augmentation dans la fonction publique depuis 1985, Élise Dangean.
Et oui, c'est du jamais vu depuis 37 ans et cette revalorisation devrait permettre, selon le ministère, que plus aucun agent ne soit rémunéré au niveau du SMIC, ce qui était le cas de près de 700 000 fonctionnaires, notamment à cause de l'inflation. Par ailleurs, le point d'indice, qui sert de base au calcul de la rémunération des agents publics, n'avait pas été revalorisé depuis février 2017. À cette augmentation générale s'ajoutent 4 mesures complémentaires pour soutenir le pouvoir d'achat des agents, notamment l'élargissement du forfait mobilité durable ainsi qu'un coup de pouce salarial aux fonctionnaires de catégorie B en début de carrière. Le ministère prévoit également de revaloriser de près de 7% la participation de l'État au prix des repas servis aux agents en activité. Coût total de l'opération, plus de 7,6 milliards d'euros qui seront répartis entre l'État et les collectivités.
Élise Dangean. Alors comment les fonctionnaires accueillent-ils cette nouvelle? Première réaction de Christian Grolier de FO Fonctionnaires.
C'est c'est une bonne nouvelle dans le sens où enfin nous obtenons une mesure générale pour les fonctionnaires, qu'on soit en catégorie C, B ou A, tout le monde pourra compenser malheureusement que partiellement l'inflation. Et c'est pour ça qu'en même temps, ce n'est pas une bonne nouvelle, puisque le ministre lui-même, M. Guérini, nous a dit aujourd'hui que l'inflation sur un an était de 5,2%. Et il nous propose que 3,5. Et on est loin du compte. Si vous voulez, les fonctionnaires, ils ont toujours ce sentiment que quand on a besoin d'eux, ils sont là. Ils ont été là sur des moments même très difficiles pour le pays. Et une fois de plus, au moment où on devrait enfin arriver à les rémunérer de manière normale, si j'ose dire, ne serait-ce que pour pas qu'ils soient victimes de l'inflation, on n'arrive même pas à faire le pas supplémentaire. C'est vraiment regrettable.
Christian Grolier, secrétaire général de la Fédération des fonctionnaires Force ouvrière.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Nous sommes maintenant aux Assises de Strasbourg, deuxième jour du procès de Jean-Marc Reiser pour l'assassinat en 2018 de Sophie Le Tan, une étudiante de 20 ans. Aujourd'hui, d'anciennes compagnes de l'accusé sont venues témoigner à la barre. Elles ont raconté la peur qu'elles ont ressentie face à la violence de Jean-Marc Reiser. Et de la même façon, Mélina Fachin, elles décrivent tout un personnage manipulateur.
Depuis sa première petite amie dans les années 80 à sa dernière compagne en 2018, toutes rapportent grosso modo la même chose, les coups de poing, les insultes qu'elles ont subies, le côté imprévisible de Jean-Marc Reiser qui, je cite, « pète des câbles à la moindre petite contrariété ». « J'étais terrorisée, je crevais de trouille », déclarent plusieurs d'entre elles. « J'ai découvert ce que c'était d'être manipulée ». Voici comment sa dernière compagne le décrit en quelques mots.
« Secret, autoritaire, manipulateur, intelligent. Ben, il avait un rapport de domination, quoi. Voilà. J'avais l'impression d'être sous sorte d'emprise. Moi, il a tenté de m'étrangler, il m'a menacé avec une arme. Il me faisait peur, évidemment.
Et c'est surtout au moment où ces femmes souhaitent rompre avec Jean-Marc Reiser que tout dérape. Il les harcèle, les poursuit. L'une d'entre elles raconte que sa famille a dû l'escorter durant des mois où qu'elle aille pour la protéger. Dans son box, l'accusé semble souvent sourire sous son masque. Incrédule, il secoue la tête en haussant les sourcils comme si ce qu'il entendait n'était qu'un ramassis de mensonges. Demain, ce sont les dépositions de la famille de Sophie Le Tan qu'il va devoir écouter. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Le secteur bancaire, une nouvelle fois montré du doigt. Et cette fois, l'UFC Que Choisir porte plainte contre 12 banques et pas des moindres. On compte notamment le Crédit Agricole, BNP Paribas, la Société Générale, CIC, mais aussi des banques en ligne et des néobanques. Elles sont toutes accusées de ne pas rembourser leurs clients en cas de fraude bancaire, alors que c'est pourtant la loi, Maud Descamps.
Oui, en fait, l'association de consommateurs a passé au crible plus de 4300 signalements de clients victimes d'une fraude et qui n'ont pas été remboursés par leur banque. On parle par exemple de quelqu'un qui se serait fait voler ses coordonnées bancaires. La loi est claire, votre banque doit vous rembourser le montant prélevé frauduleusement. Or, selon Mathieu Robin de l'UFC Que Choisir, les banques dupent leurs clients en leur faisant croire qu'ils sont fautifs.
Ce que l'on constate, c'est que les banques usent de pratiques commerciales trompeuses et de façon industrielle pour ne pas rembourser les consommateurs en les induisant en erreur. Le consommateur, on va l'accuser de négligence sans en apporter la preuve. La réglementation est très claire, elle dit que le consommateur qui est victime d'une fraude doit être remboursé systématiquement et immédiatement, sauf négligence de sa part.
Si vous êtes victime d'une fraude et que votre banque refuse de vous rembourser en vous accusant de négligence, sachez que vous pouvez lui réclamer la preuve de cette négligence. Il faut savoir que les fraudes bancaires sont en très forte hausse depuis 10 ans. Elles ont doublé. Cela représente 1,3 milliard d'euros prélevés frauduleusement chaque année sur les comptes en banque. Ce sont plus d'un million de Français qui en sont victimes.
Maud Descamps, voilà un geste que la plupart d'entre vous fait de moins en moins souvent. Coller un timbre-poste sur une enveloppe. En tout cas, quand on en a besoin, on n'en a pas toujours sous la main. Eh bien, la Poste se propose de vous faciliter la tâche. L'année prochaine, elle va lancer le timbre numérique, autrement dit dématérialisé. Il se présentera, celui-là, sous la forme d'un code. Explication avec Nathalie Collin, responsable du numérique à La Poste.
C'est très simple. Vous êtes dans la rue, vous avez besoin d'envoyer une lettre, un document. Eh bien, vous allez sur votre application, laposte.fr, et en trois clics, vous allez télécharger un code. Ce code, vous allez tout simplement l'écrire sur votre enveloppe, en haut à droite. Et vous allez ensuite poster votre enveloppe. Et là, comme une lettre à la poste, elle va arriver. C'est très simple pour le client. C'est très compliqué d'un point de vue technique, puisqu'il faut à la fois de la cryptologie, de l'intelligence artificielle, pour être capable de générer en temps réel plusieurs millions de codes qui soient très peu fraudables, idéalement pas du tout. Et donc, on est la première poste au monde avec la poste suisse à lancer ce produit pour révolutionner le timbre.
Et on précise que le timbre papier continuera d'exister, bien sûr. Nathalie Collin, du service numérique de La Poste, avec Noah Moussa. Le Covid revient dans l'air, on en parlait il y a quelques minutes, et dans les conversations. Il en était d'ailleurs question aujourd'hui au tournoi de tennis de Wimbledon. Alizé Cornet, numéro 1 française, qui vient de se qualifier pour le deuxième tour. Juste après son match, elle a donné une conférence de presse, Jean-François Pérez, et elle a fait une drôle de révélation.
Oui, la Française a lâché une petite bombe en pleine conférence de presse. Il y a 3 semaines, à Roland-Garros, la Tchèque Krejčíková, tenante du titre, avait dû quitter le tournoi après un test positif au Covid. On craignait une hécatombe de forfaits chez les joueurs et les joueuses. Elle n'est jamais arrivée. Et pour cause, selon Alizé Cornet, nombre d'entre eux auraient volontairement gardé le silence.
À Roland, il y a une épidémie de Covid, personne n'en a parlé. C'est juste qu'on l'a... Voilà, dans les vestiaires, tout le monde l'a eu et on n'a rien dit. Donc... Voilà, on a 3 symptômes, on a la gorge qui gratte, et puis on joue, et puis tout va bien, et ça va. On va pas s'auto-tester comme ça pour se mettre dans la merde. Enfin, à un moment donné, il faut être logique, quoi.
Cornet est-elle allée trop loin? A-t-elle été rappelée à l'ordre? 2 heures plus tard, la joueuse rétropédale sur les réseaux sociaux. « J'ai dit que je soupçonnais quelques cas de Covid sans en avoir la preuve », assure-t-elle. Pas forcément ce qu'on avait entendu, mais en substance, la numéro 1 française estime qu'après 2 ans de protocole sanitaire très strict, le circuit du tennis a mangé son pain noir. « Tout le monde est vacciné », dit-elle. « Le Covid fait partie de nos vies, il faut faire avec ». Rappelons que depuis le début de Wimbledon, 2 joueurs ont déclaré forfait après avoir subi des tests positifs, le Croate Cilic et l'Italien Berrettini.
Jean-François Pérez, Serena Williams a officiellement repris du service à Wimbledon après 1 an d'absence en raison d'une blessure à la cuisse. La championne américaine qui affronte ce soir la Française Harmony Tan et Rafael Nadal, lui, qui n'avait plus joué à Wimbledon depuis sa demi-finale perdue en 2019. Il a concédé un set avant d'écarter l'Argentin Cerundolo. Rafael Nadal qui est donc qualifié pour le deuxième tour. Le temps pour demain, mercredi, Marlène Duret, on va retrouver du temps calme dans le sud-est.
Oui, les orages qui ont commencé la mi-journée dans le Var, qui se sont décalés dans les Alpes-Maritimes, ont filé vers l'Italie et arrosent copieusement le golfe de Gênes. Les cumuls d'eau correspondent à l'équivalent de 3 à 8 semaines de pluie hein, pour un mois de juin. Mandelieu-la-Napoule, par exemple, il ne pleut jamais en juin, ils ont reçu l'équivalent de 28 jours de pluie. Porquerolles, près de 58 mm, ça correspond à 2 mois de pluie. Hier, 60 mm en 45 minutes. Au total, 70 mm enregistrés, soit 55 jours de flotte. On en avait besoin.
Donc, beaucoup d'arrosoirs.
Ça fait
par
beaucoup.
Mètre carré.
Ça fait beaucoup. Donc demain, effectivement, temps sec, beau temps, pratiquement partout. Parfois, c'est un petit peu long. Bon, faut patienter un petit peu, notamment près des frontières de l'Est. À l'Ouest, en revanche, eh bien, les nuages seront plus nombreux, d'autant plus qu'on a une nouvelle perturbation qui arrive et elle est en ce moment dans le Finistère. Elle va gagner en journée les Hauts-de-France, les Yvelines, la Touraine, les Charentes, une partie de l'Aquitaine, l'Ouest de Midi-Pyrénées, mais des pluies sous forme d'averses et les éclaircies perceront malgré tout, contrairement à la matinée où le temps sera bien nuageux. Les températures maximales, bon, pas grand, ça ne bouge pas vraiment, entre 17 à Brest et 33 à Nîmes ou Avignon avec 26 à Paris. Donc températures qui baisseront jeudi après le passage des pluies parce que la perturbation va se réactiver jeudi.
On n'en finit plus.
On en reparlera.
On en reparlera. Merci Marlène Duret. Dans un petit instant sur Europe 1, Top à Wall Street. Et puis notre invité éco, Noémie Merciano de WeeTeeWee, anciennement Grâce à Voix, la complémentaire santé. Et avec elle, eh bien, on va voir les dernières tendances de l'absentéisme au travail. A tout de suite.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
Avec nous Didier Hamot pour Top à Wall Street. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
De Boursier.com, Wall Street qui repart déjà à la baisse, hein, entraîné par les valeurs technologiques.
Ça retombe déjà nettement. Le marché reste convalescent en attendant la prochaine hausse des taux américains au mois de juillet pour tenter de lutter contre l'inflation qui galope toujours. Le Dow Jones recule ce soir d'1,56% à 30 947 points et le Nasdaq repère pratiquement 3%, moins 2,98%, 11 181 points. Toutes les valeurs de technologie, oui, retombent lourdement. Amazon, moins 5% pratiquement. Microsoft, moins 3%. Tesla, moins 4,8% à $699. Facebook, moins 5%. On a aussi Google, moins 3,3%. Apple, moins 2,7% à $137.78. IBM tente de résister en baisse de 0,6% seulement. Le pétrole monte un petit peu encore, $111 le baril, en hausse d'1%. Et puis l'euro campe autour des 1,05. Il ne bouge pas face au dollar.
La bourse de Paris, quant à elle, a légèrement progressé dans le calme.
Oui, c'était très calme, en hausse quand même, hein, plus 0,64%. Mais attention à la rechute demain, 6 086 points. Donc le CAC n'est pas parvenu à se tenir au-dessus des 6100 points. Un marché globalement calme, oui, mais il y avait quand même l'automobile qui est monté de nouveau. Il y a pas mal de mouvements dans le secteur automobile. Valeo prend 4% à 20 euros ce soir après un partenariat annoncé avec BMW dans la conduite assistée. Et puis Renault aussi, plus 2,3% à 25,86 euros après une alliance avec Atos dans la transformation numérique. Stellantis gagne aussi 1% et Michelin monte de 0,6% à 26,61 €. Le pneumaticien a annoncé céder ses activités en Russie où le groupe emploie 1000 personnes.
Et puis, exception du jour, Didier, les valeurs de santé hein, qui ont encore été chahutées.
Ça baisse un petit peu, ça baisse encore. Oui, Valneva, qui était bien monté, hein, retombe de 8%. Genomic Vision, moins 4%. Puis Sanofi, qui souffle aussi de 0,2%. 99,37 €. Là aussi, Sanofi avait nettement rebondi dans la foulée de ses récentes annonces positives concernant ses candidats vaccins, en particulier le vaccin contre la Covid-19. Les autres places financières sont en hausse. Le DAX, plus 0,3%. Ce sont de petites hausses. Hein. Bruxelles, plus 0,2%. Madrid, plus 0,4%. Et le CAC 40, donc, plus 0,64%. 6086 points.
Merci Didier Hamot. L'invité éco sur Europe 1. On accueille Noémie Marciano. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de l'offre conseil Health and Benefits chez WTW, hein, c'est comme ça qu'on dit. Hein.
C'est exactement ça, WTW, vous pouvez le dire WTW.
À l'américaine, c'est le nouveau nom donc de Grâce à Voix.
Tout à fait.
Donc pour l'instant, Grâce à Voix, ça parle toujours à plus de monde, j'imagine, avant que vous fassiez complètement la bascule. Vous publiez votre baromètre annuel, un baromètre 2022 de l'absentéisme en entreprise. Alors là, on veut vraiment tout savoir. Première question pour vous, Noémie Marciano. À quoi elle ressemble, cette dernière photo en date de l'absentéisme en entreprise?
Alors, cette dernière photo en date, donc, qui est réalisée sur un panel de plus de 600 entreprises, hein, dont on va suivre l'absentéisme des salariés sur plusieurs années, montre une tendance à la hausse de l'absentéisme. Donc, on a une année 2020 où on savait qu'il y avait un pic d'absentéisme lié notamment au Covid, aux arrêts dérogatoires pour garde d'enfants, etc. Donc, on avait un taux d'absentéisme en 2020 qui était très élevé. Et cette année, on a aussi observé un taux d'absentéisme qui est élevé comparativement à celui de 2019. Donc, on a une vraie tendance à la hausse de l'absentéisme, des impacts liés au Covid, mais également une tendance de fond un peu plus profonde liée à cet absentéisme qui croît d'année en année.
Donc ça veut dire que cette tendance, elle était déjà observée avant le début de la crise sanitaire, hein ?
Tout à fait, on est sur une tendance croissante depuis 2017. Donc comme je vous le disais, avec un pic en 2020 qui s'explique par des arrêts dérogatoires, mais on a une tendance qu'on estime entre de plus 37% depuis 2017.
Bon, on constate aussi dans cet absentéisme, hein, c'est une forte augmentation des arrêts maladie, plus 18% par rapport à 2019, c'est ça ?
Tout à fait. C'est essentiellement donc les arrêts pour maladie qui portent à la hausse cette augmentation.
Oui.
Et effectivement, ce qu'on observe dans notre absentéisme au travers des indicateurs qu'on suit, c'est plus de salariés absents, plus souvent et plus longtemps.
Alors, plus longtemps. Donc, on a une idée de la durée moyenne des arrêts maladie. Ce n'est pas uniquement, ça veut dire, lié au Covid.
Tout à fait. Alors, on mesure la durée des arrêts. Donc, sur notre panel, attention, on mesure la durée des arrêts tels que indemnisés par la Sécurité sociale, c'est-à-dire après une franchise de 3 jours. Donc, on exclut les arrêts de moins de 3 jours. Et la durée qu'on observe sur les salariés qui sont absents est de 54 jours en moyenne. C'est plus de 7 jours, par exemple, par rapport à celle qu'on avait observée en 2017.
Plus 3%. Par tranche d'âge, Noémie Marciano, la tendance est plus forte chez les jeunes. Hein. C'est ce que révèle votre baromètre 2022 également, c'est bien cela?
Alors, dans notre baromètre, effectivement, les jeunes, c'est-à-dire les moins de 30 ans, constituent donc la tranche des salariés qui ont l'absentéisme le plus bas. Par contre, effectivement, il y a une accélération de l'absentéisme sur cette tranche d'âge. Et donc, on a une progression de l'ordre de plus 26%, hein, toujours sur la même échelle d'observation entre 2017 et 2022. C'est un problème davantage lié cette fois-ci à la prévalence, c'est-à-dire au nombre d'entrées en arrêt que de durée que j'évoquais effectivement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a plus de jeunes qui entrent en arrêt de travail.
Mais comment vous l'expliquez ça ?
Alors pour tout un tas de raisons, puisque effectivement ce baromètre est accompagné cette année d'une enquête qualitative qu'on a réalisée auprès de 1000 salariés. Donc on a effectivement des explications qu'on peut donner. Alors par rapport aux jeunes, on peut citer la perte de sens, un certain désengagement et des priorités qui peuvent être ailleurs, moins d'attachement peut-être à l'entreprise, moins de patience pour la reconnaissance, ils veulent tout de suite accéder à des postes de direction, etc., sans prendre le temps en fait d'être dans le poste.
On a regagner peut-être du temps perdu. Quand on est très jeune, quand on se lance dans la vie active ou quand on termine ses études, 2 ans de Covid, ça pèse très lourd dans une vie.
C'est évident, mais effectivement, on est aussi confronté à la génération Z, qui est une génération d'instantanéité, qui est très connectée, etc., et qui du coup a moins peut-être de patience que les générations plus anciennes, où on prend le temps d'être dans un poste avant d'accéder à des postes un petit peu plus encadrant.
Quelque chose qui s'est installé depuis la crise sanitaire et qui reste, hein, c'est le télétravail, qui est souvent perçu d'ailleurs comme positif. Est-ce que là aussi, ce télétravail a un impact positif ou négatif, hein, sur l'absentéisme ?
Tout à fait. Effectivement, il y a des impacts positifs tels que, par exemple, la réduction des accidents de travail, moins d'accidents de trajet. On peut avoir aussi des effets bénéfiques sur les petits bobos. Ce que j'appelle les petits bobos, c'est le mal de tête, le mal de tête, un petit peu de fièvre qui fait que je ne me rends plus sur mon lieu de travail. Là, effectivement, en télétravail, je peux rester à mon domicile et travailler. J'ai davantage d'équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle. J'ai aussi moins de présentéisme. Le présentéisme, c'est une notion qui consiste à se rendre sur son lieu de travail, mais à ne pas être du tout productif.
D'accord.
Voilà les impacts positifs que je peux citer. Alors, je mets un petit bémol. Attention au télétravail lorsqu'il est subi et trop longtemps, qui peut générer, dans ce cas-là, de la démotivation, un manque de proximité avec l'équipe, etc. Mmh. Et une perte de frontières aussi entre la vie privée et la vie professionnelle.
Entre le début et la fin de la journée de travail, exactement. Si on regarde par secteur économique maintenant, par branche d'activité, est-ce qu'il y a certains secteurs qui sont plus frappés que d'autres par l'absentéisme ?
Tout à fait. Comme d'habitude, on regarde notre baromètre avec une régionalité. Les bassins les plus touchés par l'absentéisme sont les bassins les plus industriels, hein, le quart nord-est, avec spécifiquement les régions Grand Est, Hauts-de-France, la Normandie, où on explique finalement ce taux d'absentéisme plus élevé par une proportion de population non cadre plus importante.
Alors ça, c'est par région, ce qui est très intéressant aussi, hein, géographiquement. Mais je veux dire, est-ce que la restauration peut-être est plus touchée par l'absentéisme ou d'autres branches d'activité, Néoï Marciano ?
Tout à fait, effectivement, dans notre portefeuille, on constate que certains secteurs comme celui de la santé, par exemple, celui du transport, tous ceux qui ont continué à travailler pendant le Covid, et qui sont peut-être un peu aussi épuisés par cette crise sanitaire, sont d'autant plus touchés par cet absentéisme.
Elles font comment, les entreprises, pour réagir ? C'est toujours un message, beaucoup d'absentéisme dans une branche, dans un service. Est-ce que vous savez dire si ces messages sont entendus, si les entreprises ont des leviers qu'elles actionnent ?
Oui. Alors effectivement, la plupart des entreprises sont un petit peu désemparées pour suivre l'absentéisme parce qu'elles ne savent pas quels indicateurs suivre, quel est le niveau minimal en fait d'absentéisme par rapport à son secteur d'activité, comment je suis par rapport aux autres entreprises de mon secteur, et elles ont besoin de nous pour qu'on les accompagne justement pour mesurer ces indicateurs, pour en faire un vrai projet stratégique, créer un comité de pilotage avec la direction financière, les DRH, la participation des représentants du personnel aussi. Et puis, elles ont besoin de nous pour aller sur le terrain, pour échanger avec les salariés, pour comprendre les raisons de manière très factuelle et identifier avec eux les axes qu'on pourrait améliorer sur leurs conditions de travail, leur environnement de travail.
Baromètre 2022 de l'absentéisme au travail que vous publiez. Merci à vous, Noémie Marciano, directrice offre de conseil chez WTW en France anciennement. Grâce à vous, 22h29, vous êtes sur Europe 1.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Et à la une de la presse, demain mercredi, Elisabeth Borne peut-elle réussir ? C'est la une de l'opinion. La Première ministre poursuit ses discussions avec les groupes politiques de l'Assemblée nationale pour rechercher une majorité gouvernable. Mais la Macronie doute de la stratégie des majorités de projet, c'est-à-dire en quelque sorte des majorités obtenues texte par texte pour faire passer les réformes du gouvernement. On attend demain le verdict au procès des attentats du 13 novembre après 10 mois d'audience. l'Orient. C'est donc le dernier jour. L'humanité a gagné, titre Libération qui fait le bilan de ces 10 mois d'audience où rien ne s'est passé comme prévu finalement, mais où l'exemplarité aura tenu bon jusqu'au verdict qui est donc attendu ce mercredi. Les attentats du 13 novembre et le procès, c'est aussi la une de La Croix avec cette grande famille des victimes, les parties civiles qui ont noué des liens amicaux au fil de ces mois de procès. Le verdict qui est donc attendu aujourd'hui, enfin ce mercredi plus précisément, 22h30. Vous êtes sur Europe 1 et bienvenue si vous nous rejoignez. Alors que nous rejoignons aussi à l'instant Olivier Delacroix. Qu'est-ce que vous faisiez, Olivier, là ?
Je me grattais.
Ah oui, c'est bien ça. Vous avez des instruments pour ça. Oui. On dirait une fourchette, alors.
J'ai une fourchette télescopique. Ma belle-mère m'a offert une fourchette télescopique. D'ailleurs, j'en profite pour l'embrasser, Daniel, qui est là-bas, tout près de Draguignan. Je l'embrasse bien fort. Et elle m'a offert une fourchette, vous savez, une fourchette télescopique, ces petites fourchettes pour
me gratter. C'est redoutable, ça, comme outil. Ça tient dans la poche.
Ça tient dans la poche, mais comme c'est utile.
Ah oui, ça arrête une démangeaison.
J'en ai un petit peu partout depuis.
Ouais.
J'en ai dans mon sac.
Ah, vous avez semé des fourchettes télescopiques
exactement,
partout.
Exactement.
Bon.
Voilà, parce que je me gratte beaucoup.
Bah écoutez.
Bon, tout va bien.
Bah, tout va bien.
Dans l'actu, quoi?
Bah dans l'actu, on a beaucoup de... Si vous avez écouté le journal de 22h, Olivier, on a beaucoup de...
Alors, je m'excuse, je suis un petit peu arrivé en retard.
On a le masque qui revient, tiens, par exemple.
On a le masque qui revient.
Alors, pas de manière obligatoire, mais on en prend le chemin quand même. Hein. Le nombre de cas Covid qui explose.
En même temps, je connais plein de personnes qui ont le Covid autour de moi. Vraiment.
Ouais.
Donc, ça revient fort.
Bah, on parlait de l'absentéisme en entreprise il y a un instant. Le Covid revient, y compris et surtout sur le lieu de travail. Oui,
ouais, ouais.
En plein été. Ouais.
On dit encore merci aux Chinois parce que ça vient de je suis persuadé que ça vient de ce laboratoire. Vous savez, j'ai vu plusieurs d'abord documentaires, en tout cas reportages faits là-dessus. Très bien documenté. Et surtout, le professeur Montagnier, paix à son âme, dont tout le monde avait raillé un peu les conclusions. Finalement, on en est revenu à l'explication du professeur Montagnier avec un... Alors, je ne sais pas, hein, ce sont des termes un peu scientifiques, mais la constitution du Covid montrait que c'était un virus... fabriqué, en fait. Vous voyez, je ne sais pas, il y a une écriture, un enchaînement de... Je ne sais plus quoi, hein, mais en tout cas un enchaînement de particules qui, lorsqu'un virus est naturel, on le voit, mais lorsqu'un virus a été dévié, manipulé, on le voit aussi.
Bon, c'est l'histoire sans fin, en tout cas, Olivier.
C'est l'histoire sans fin.
C'est la septième vague, hein,
ouais,
déjà.
Septième vague, et on n'en a pas fini, malheureusement. Souhaitons, en tout cas, qu'on en ait fini avec... Les couvre-feux et tout ça, parce que je crois que j'ai vu que le moral des couples français était au plus bas en ce mois de juin, et je pense que ça a énormément impacté le moral des Français, et puis tout le monde, quoi.
Bien sûr.
Bon, on va essayer en tout cas de leur remonter le moral, même si on évoque dans cette libre antenne des histoires qui ne sont pas toujours faciles à entendre, mais on entend des histoires où d'où émanent certaines valeurs de combat, de courage. Et donc, c'est comme ça, de toute façon, qu'on ressort, parce que la vie est belle tout de même.
Ressortons par le haut. Merci.
Exactement. Et nous, on se retrouve à 23h pour votre flash.
Merci, Olivier. À tout à l'heure.